Merci beaucoup, merci aux organisateurs et à Céline d'avoir mis en place tout ça et ces discussions qui vont avec. Donc, à défaut de Dieu, un curé, enfin, pas vraiment un curé d'ailleurs, mais un prêtre, même pas défroqué, à la différence de... Voilà, mais vous m'entendez mieux comme ça. Et même deux, parce que je pense que, contrairement au titre que j'avais annoncé, vous verrez que je parlerai non pas autant, mais presque autant de Teilhard de Chardin que de l'abbé Breuil. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des travaux et de la personnalité de Henri Breuil, auquel beaucoup de recherches ont déjà été consacrées depuis sa mort en 1961. Des recherches qu'il avait d'ailleurs initiées lui-même par une sorte de compulsion autobiographique de prêtre savant qui a multiplié les indices et les textes autour de sa propre vie. Encore de nos jours d'ailleurs, c'est un nom qui reste dans l'imaginaire collectif, le souvenir de celui qu'on surnommait le pape de la préhistoire. Dans la culture de l'honnête homme, on se rappelle donc son rôle fondamental dans la reconnaissance de l'authenticité de l'art pariétal paléolithique en 1901-1902. On a aussi en mémoire, je pense, ou en mémoire visuelle, les innombrables relevés et copies qu'il a produits avec, il faut dire, une acuité visuelle hors du commun en France, en Europe et à travers le monde, notamment en Afrique australe. On se souvient plus de cela que de ses propositions de division chronologique de la préhistoire, du paléolithique en particulier, ou de ses travaux d'analyse stratigraphique ou de géologie qui sont largement oubliés. Alors, ce travail va être plutôt pour moi l'occasion, tout simplement, au début, avant de ne pas parler de Breuil, finalement, ou de ne pas parler complètement de Breuil, de rendre hommage à tous ceux qui en ont parlé mieux et plus que moi, historiens, préhistoriens, qui ont arpenté donc un labyrinthe de fonds d'archives répartis dans différents sites parisiens et américains. Je pense à Claudine Cohen, à Oscar Moreau-Abadia, à Noël Quay, Gilles Gaucher, Jean-Loïc Lequelec, François Bon, Romain Pigeot, Yann Potin, Nathalie Richard, Marc Grenen en Belgique, et tout particulièrement à Arnaud Hurel, qui a rédigé une monumentale biographie de l'abbé en 2011. Je m'appuierai d'ailleurs beaucoup sur son texte. C'est aussi l'occasion de remarquer plus généralement, les noms que je viens d'énumérer en sont la preuve, la vitalité étonnante des enquêtes sur l'histoire de la préhistoire, vitalité qui se vérifie depuis la naissance de cette dernière en tant que champ du savoir dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une sorte d'énergie introspective qui est l'indice à la fois des questions épistémologiques fondamentales posées par la nouvelle discipline et des conflits idéologiques qui n'ont cessé de la traverser, qui la traversent toujours, et qui l'ont donc poussée, qui la poussent toujours, à l'auto-analyse. En m'appuyant donc sur ces acquis historiographiques, je me concentrerai, comme le veut notre colloque, sur la tonalité spécifique du rapport au religieux que Breuil a apporté avec lui au Collège de France. Je me demanderai donc dans quel contexte social et personnel ce substrat métaphysique de son activité de savant s'est constitué. Comment a-t-il pu trouver sa place au sein du Collège de France? Dans quelle mesure et selon quelle modalité il s'y est exprimé et a évolué au fil du temps? Et vous verrez, comme je l'ai déjà annoncé, que la réponse à ces questions, ou au moins le développement de ces questions, passe par une présence-absence, celle de Pierre Teilhard de Chardin. Sans que l'illustre paléontologue jésuite ait jamais été intégré à l'institution, sa personne et sa pensée ont exercé une influence majeure sur l'articulation au Collège de France entre le discours savant sur les origines et le problème de Dieu. En prononçant cette expression, je reprends un titre d'Édouard Leroy, successeur de Bergson au Collège, on en a déjà fait mention à quelques reprises, et ami à parts égales de Breuil et de Teilhard. Sur la question de Dieu, en fait, si on va jusqu'au bout, en lien avec la préhistoire en tout cas, on pourrait dire en forçant un peu le trait, vous verrez même que j'essaierai de renverser ce trait in fine, la présence de Breuil s'apparente à une absence, ou du moins à une abstention, tandis que l'absence réelle de Teilhard revient en fait à une présence puissamment efficiente de cette problématique de la pensée sur Dieu. Alors, la création d'une chaire de préhistoire, donc le 20 janvier 1929, et son attribution à l'abbé Breuil, le 14 avril de la même année, doivent être replacés donc dans un contexte au sein duquel, de toute façon, les débats religieux ont toujours joué un rôle majeur. Pas forcément évident, hein, la préhistoire peut être très loin de la question religieuse, elle ne l'était pas. Ils l'ont d'abord fait pour des raisons structurelles, d'un point de vue épistémologique, donc, dans la pensée sur le rapport au temps. C'est moins, en effet, il me semble, par une extension raisonnée de la chronologie historique que par le brouillage de la pensée de la temporalité que l'idée de préhistoire emporte par nature avec elle un rapport dialectique au religieux. Avant toute enquête archéologique, enquête qui vont se développer au cours du XIXe siècle, l'ouverture de la question des origines et des sens métaphysiques, c'est un lieu commun de le dire, et elle en conserve toujours la marque, faisant porter l'accent, comme l'écrivait déjà Buffon au XVIIIe, donc sur le sombre abîme du temps, c'est une expression qu'on redit sans fin en la lui attribuant, sur cette nuit du temps qui échappe ainsi à l'emprise du regard objectif. L'abyssalité, donc, du temps préhistorique échappe a priori au décompte et restaure, en quelque sorte, la pureté anhistorique du temps des origines. Le mot même de préhistoire le dit, avec un préfixe où la valeur privative le dispute à la valeur temporelle. On comprend ainsi l'attraction de nombre d'esprits au XIXe siècle, portés à la spéculation sur les origines, vers cette faille structurellement ouverte par le criticisme moderne lui-même dans les perspectives bien ordonnées de la science positive. D'un autre côté, cependant, la démarche préhistorienne en tant que telle inscrit cette abyssalité du temps dans des procédures de part en part matérielles. C'est en le matérialisant radicalement que la préhistoire en tant que démarche, que regard moderne porté sur le réel archéologique, rend le temps long abyssal. Elle ne le transforme pas seulement d'une profondeur mesurable en un abîme incommensurable, au plan métaphysique commun, disons, mais elle identifie cette incommensurabilité à une épaisseur qu'il faudrait plutôt dire impénétrable qu'incommensurable, dans la matière archéologique du sol terrestre. Ainsi se produit assez naturellement, avec le processus même de constitution de la discipline de la préhistoire, une conflagration entre attraction métaphysique et expérience matérielle, qui a naturellement nourri les débats, les conflits, les confusions aussi, entre positions spiritualistes et positions matérialistes. Il me semble que les travaux et la pensée de Breuil en constituent une incarnation en tout point emblématique. Ces débats, pour revenir un peu en arrière, ont pris corps avec une acuité tout à fait spécifique en France, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, pour deux raisons. D'une part, parce que l'idée de préhistoire y apparaissait comme une sorte de prérogative nationale, tant du point de vue de la localisation des découvertes de sites paléolithiques que de leurs interprétations. D'autre part, on l'a déjà maintes fois dit, parce que les enjeux de la distinction entre science et religion y ont atteint un degré tout particulier d'intensité politique. Du côté de l'Église, la situation est caractérisée à la fin du XIXe par la vigueur des vocations pour l'étude de la préhistoire, et par les encouragements qu'elles ont reçus dans le milieu pédagogique du séminaire d'Issy-les-Moulineaux et du centre de formation des jeunes prêtres au Carme, en particulier à travers l'action de l'abbé Jean Guibert, esprit acquis à un évolutionnisme transformiste, auteur de multiples ouvrages, mais entre autres en 1896, donc d'un ouvrage maintes fois réédité sur les origines de la vie, de l'homme et de la culture, dont le jeune Breuil a assuré une mise à jour partielle en 1898. Le mouvement avait d'ailleurs une ampleur européenne, ce mouvement de vocation savante de religieux, de futurs prêtres, de prêtres tout court, pour la réflexion sur la préhistoire. Et Breuil s'est ainsi trouvé accompagné en préhistoire toute sa vie par des collègues et souvent des proches amis prêtres, comme les frères Buissonni, attachés à la découverte de la sépulture, alors c'est pas Dieu ça, c'est un chemin vers Dieu, la sépulture des Néandertaliens de la Chapelle aux Saints, bien nommée, en août 1908, ou surtout comme l'Allemand, plus tard naturalisé espagnol, Hugo Obermeier, co-découvreur exactement au même moment, en 1908, de la célébrissime figure féminine paléolithique de Willendorf. En 1911, le périodique La Raison catholique pouvait ainsi se féliciter, je cite, que la science de l'homme préhistorique fût maintenant devenue presque une spécialité du clergé. De fait, Albert Ier de Monaco venait de créer à Paris l'Institut de paléontologie humaine, première institution d'enseignement et de recherche entièrement et spécifiquement dédiée à la préhistoire en tant que science, et d'y faire nommer deux prêtres, Breuil et Obermaier, comme titulaires respectifs des chaires d'ethnographie préhistorique pour Breuil et de géologie appliquée à la préhistoire pour Obermaier. À cette époque, comme on le sait, la crise moderniste atteignait pourtant son paroxysme dans l'Église, et la question se posait naturellement de savoir si la préhistoire appartenait, au même titre que l'exégèse, au précaré du dogme catholique et en opposition avec les données nouvelles de l'archéologie. Alors c'est en ce point qu'une distinction se manifeste qui va décider de la carrière de Breuil entre la question des origines de l'homme, c'est-à-dire la paléontologie humaine, directement articulée à la question de l'évolutionnisme biologique, et la question des origines de la culture. L'une et l'autre étaient à vrai dire inséparables dans l'esprit et les intérêts des préhistoriens de tous bords, mais elles ne faisaient pas l'objet du même type de contrôle idéologique de la part de l'Église. La censure romaine s'est concentrée sur l'évolutionnisme, contre lequel il s'agissait de protéger l'intégrité du dogme du péché originel et surtout la singularité de l'homme dans le règne de la vie. La crise intégriste plus tard, dans les années 1920 à Rome, autour de Pie XI, a incarné une résurgence violente de ce durcissement anti-évolutionniste, entraînant en 1925, comme on sait, l'interdiction faite à Teilhard de Chardin de poursuivre son enseignement de géologie, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, mais en fait c'était surtout de la paléontologie humaine, à l'Institut catholique à Paris, l'a entraîné également son interdiction de publier autre chose que de stricts comptes rendus de fouilles, et finalement son éloignement en Chine en 1926. Inversement, les questions culturelles, tant dans leur contenu que dans leur extension chronologique, n'ont jamais vraiment cristallisé les résistances romaines de la même manière. Ce net contraste entre la crispation de l'Église institutionnelle en matière de paléontologie et sa relative indifférence à l'égard des industries et des représentations symboliques du paléolithique explique certainement en partie le choix prudent de Breuil de concentrer la quasi-totalité de ses travaux sur l'analyse des manifestations culturelles, quand bien même l'évolutionnisme biologique de l'espèce humaine n'a cessé de le mobiliser intellectuellement, à l'instar de tous ses collègues, et en dialogue étroit avec des paléontologues comme Marcelin Boule, directeur de l'Institut de paléontologie humaine, où lui-même était professeur. De fait, c'est à la suggestion même de Breuil, suggestion habile entre toutes, que la troisième chaire de professeur à l'IPH, consacrée à l'anthropologie préhistorique, c'est-à-dire en fait à de la paléontologie stricto sensu, a été attribué au docteur donc René Vernot, alors directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, surtout anthropologue matérialiste, qui se décrivait lui-même, comme vous le voyez, comme ayant la phobie du prêtre. Comme l'a montré Arnaud Hurel, cela n'a pas empêché l'Institut, donc l'IPH, institution privée financée par la Fondation Albert Ier et dominée de fait par deux clercs catholiques de renommée déjà internationale, de susciter de violentes attaques de la part des préhistoriens laïcs. Ces oppositions, donc en 1910-1911, sont la suite logique d'un engagement précoce des militants d'une science laïque dans les études de préhistoire, exactement symétriquement de l'engagement de leurs ennemis cléricaux. Cet engagement s'est fait sur un plan à la fois idéologique et méthodologique. En France particulièrement, le premier artisan d'une institutionnalisation de la discipline, Gabriel de Mortillet, a incarné cette lutte idéologique dès les années 1870 en défendant la vision d'un art paléolithique détaché de toute préoccupation symbolique ou a fortiori religieuse, un art fondé sur le pur plaisir créatif, ce qui revenait à reléguer le plan divin au rang de simple construction culturelle, tardive de surcroît, et forgée à des fins d'aliénation sociale des individus. On sait que cette position anti-religieuse, c'est elle qui a motivé le veto longtemps opposé par Mortillet et par ses soutiens à l'authentification des grottes ornées paléolithiques en dépit de la découverte d'Altamira dès 1879, mais du fait que ces découvertes, si on les authentifiait, ne pouvaient pas ne pas signifier un lien nécessaire entre création artistique et intention rituelle et ou religieuse et ou magique. Cette authentification a été permise par les efforts conjoints de découvreurs de terrain, progressivement à la fin du XIXe siècle, et d'interprètes, parmi lesquels Breuil, comme on le sait, a joué un rôle de premier plan à la fois comme découvreur lui-même, comme dessinateur et comme analyste, s'imposant donc avec une autorité inégalée au sein de ce mouvement qui désormais exigeait d'associer l'existence de l'art et celle de préoccupations spirituelles, ou du moins d'une valeur magique, comme il l'écrit à la fin du texte cité, dans les sociétés paléolithiques. Cela dit, l'enjeu du matérialisme laïque en préhistoire n'était pas seulement idéologique. Sur un plan méthodologique également, il s'agissait d'imposer une analyse strictement matérielle des objets dont la factualité était seule susceptible de conférer sa valeur de vérité à la démarche du préhistorien. De ce point de vue, Breuil, et j'y reviendrai pour conclure, a toujours ressenti une certaine fascination pour ce rigorisme méthodologique qui identifie la vérité au fait et le fait à la matérialité, démarche dont il s'est perçu au Collège de France comme l'héritier et le continuateur. Il se dit lui-même, avec un brin de provocation, comme ayant eu le sentiment de continuer plus qu'aucun autre son œuvre, et l'œuvre, c'est celle de, au fond, son ennemi juré, même s'il ne l'a pas connu, Gabriel de Mortillet et les disciples de Gabriel de Mortillet. Alors, du coup, quel est donc le Dieu que Breuil véhicule avec lui au Collège de France ? Existe-t-il seulement ce Dieu, et si oui, sur quel mode ? Breuil a toujours tenu, il faut le reconnaître, à souligner la continuité entre sa vocation spirituelle et sa carrière de savant. Je cite « Je me suis fait près son autobiographie, citée également par Arnaud Hurel, sur lequel je m'appuie à nouveau, je me suis fait prêtre parce que j'ai voulu, et je l'ai voulu parce que j'en ai ressenti l'appel et que mes directeurs l'ont reconnu valable, malgré la forme très spéciale que cet appel a prise. Cette forme très spéciale, la recherche savante en préhistoire, est inséparable de l'intégration continue de la religion de Breuil dans un milieu de pensée et d'action cléricale, clairement définie, d'obédience moderniste et gallicane, qu'a étudié Fanny de France Jublot. Son gallicanisme d'abord, le gallicanisme de Breuil, n'a cessé d'alimenter une méfiance fondamentale à l'encontre de la curie romaine, qu'il va jusqu'à traiter, je cite, de « sous-fascisme quelconque qui se fait passer pour la papauté et qui n'est qu'un parasite de celle-ci ». En 1924. Lecteur de Lamennais, au sortir de la Première Guerre mondiale, il oppose à l'inadaptation de son Église, une irrépressible puissance révolutionnaire, fût-elle violente et anticléricale comme la Révolution bolchevique. Vous le voyez, ce n'est pas d'eux, les chefs de Rome ou de Paris, que viendra l'Évangile des temps nouveaux. Malgré les horreurs du début, probablement les bolcheviques en sont plus près. Eux cherchent, eux déblaient des mines pour construire. Quant à son modernisme, il se concentre sur la question de l'évolution. C'est ce qui le conduit en privé à considérer le récit de la Genèse comme, je cite, une cosmogonie poético-philosophique et à inclure tout le paléolithique dans les versets consacrés à Adam et Ève, ce qui lui donne évidemment toute liberté de développer ses propres interprétations à partir de là. Ce faisant, il s'inscrit, à vrai dire, dans une longue histoire de l'adaptation du récit biblique à la pensée sur la préhistoire, qui remonte aux géologues du début du XIXe siècle, comme le révérend William Buckland, par exemple, premier titulaire de la chaire de géologie à l'université d'Oxford, qui assignait à la Genèse, dès 1836, une valeur abstraite, vous le voyez aussi, et non factuelle. Cela dit, c'est plus directement dans la pensée de Teilhard de Chardin, rencontré dès 1908 dans le laboratoire de paléontologie de Marcelin Boule au Muséum, que Breuil a puisé les principes de son évolutionnisme spiritualiste. Il l'a fait à partir de la lecture des textes diffusés par son ami Adusum Privatum, parce que Teilhard ne pouvait pas publier ses textes. Il l'a fait aussi à partir des rencontres fréquentes entre les deux hommes, lorsqu'ils se trouvaient ensemble à Paris, ou surtout de leurs voyages communs dans les grottes des Pyrénées au cours des années 20, en Éthiopie et en Abyssinie en 1933, en Chine en 1935. Enfin, il l'a fait à partir de leur correspondance. Dans celle-ci, au-delà des discussions parfois très tendues sur le degré de culture technique, dans le détail dans lequel je ne rentre pas, du synanthrope que Teilhard de Chardin avait contribué à mettre au jour sur le site de Choucoutienne, dans cette correspondance donc, ressort surtout la marque de convictions spirituelles et philosophiques partagées, celle des grands changements religieux et moraux, je cite toujours Teilhard, pardon, dont nous avons si souvent parlé ensemble, comme lui écrit Teilhard en 1940, celle d'une possible infusion du christianisme dans, je cite, « les larges perspectives cosmogoniques élaborées par les anciens bouddhistes », ou encore la reconnaissance de leur appartenance commune à, je cite toujours la citation, je la montrerai un peu plus loin, « l'école catholique antifixiste, à tous les sens du mot ». Sentiment d'appartenance globale, donc, renforcé par la menace constante de la crise intégriste et de l'ignorance des censeurs romains. Pour autant, Breuil n'a jamais développé publiquement ses convictions, tout à fait à l'opposé de Teilhard. Politiquement, l'immense tristesse éprouvée à la fin de la Première Guerre mondiale l'a plutôt conduit à se replier dans le travail de terrain pour oublier, dit-il, heureusement que j'ai mes cavernes et mes travaux. Repli qui s'est toujours vérifié par la suite, même si sous l'occupation, tout en acceptant Pétain et en accusant Laval, il s'est dressé avec véhémence contre l'antisémitisme de Vichy, dans lequel il voyait, je cite, « de la pure persécution religieuse ». Il a écrit ça au maréchal Pétain lui-même, et puis en fait, il a remis la lettre, et la lettre qu'il avait donnée pour qu'elle soit remise à Pétain n'a jamais été remise au maréchal, tant mieux sans doute pour Breuil, qui en aurait subi les conséquences. Philosophiquement par ailleurs, il a toujours pris grand soin, contrairement à Teilhard, de présenter l'idée évolutionniste comme une méthode, un outil de découverte et d'analyse, auquel demeurait inaccessible le plan ontologique, celui, je cite, « des choses invisibles qui sont à la racine de tout ce qui est et vit ». Il a tenu à le souligner donc dans sa leçon inaugurale, comme vous le voyez ici. Cette prudence idéologique, l'absence quasi totale de considération métaphysique ou a fortiori théologique dans ses prises de parole publiques, ne procède pas seulement d'une stratégie de survie au regard de la censure romaine, mais d'une inclination personnelle profonde pour l'expérience concrète plutôt que pour la spéculation, tendance qu'il a identifiée dès ses premières années de formation, on est dans les années 1893-1896, où il écrit « J'ai toujours éprouvé grande difficulté à demeurer longtemps de suite à réfléchir sur des sujets spirituels, car j'ai trop peu de sentimentalité. » Cet attachement au plan de l'immanence, cette revendication obstinée de « licet nunc » sont aussi ce qu'il opposait à ses propres yeux le plus clairement aux intuitions mystiques, c'est le terme qui revient sans fin dans la correspondance avec Teilhard, ou prophétiques également de Teilhard. Teilhard croit voir de l'autre côté de la montagne, moi je ne vois que de ce côté, parce que je vois là où je suis. Mais Breuil ne s'en est pas moins constamment placé aux côtés de son ami. Il l'a averti des dangers qui le menaçaient à Rome. Il l'a défendu en rédigeant à Altamira en 1925, avec Hugo Obermeyer et Henri Bégoin, une défense et illustration du bien fondé de la pensée de Teilhard à l'adresse du pape. Il a également acquis à Teilhard de nouveaux soutiens dans le monde savant, comme celui de Paul Rivet, auquel il a communiqué une note sur le progrès de Teilhard en 1920, ou surtout, comme le philosophe catholique Édouard Leroy, disciple et successeur de Bergson, je l'ai déjà dit, que Breuil avait rencontré dans le cercle lazariste de Fernand Portal et auprès duquel il a introduit Teilhard en 1921. La même année 1921, Leroy intégrait pleinement, il était suppléant auparavant, le Collège de France à la chaire de philosophie moderne où il allait littéralement faire fusionner sa pensée avec celle de Teilhard de Chardin. Il allait par ailleurs être la cheville ouvrière de la création de la chaire de préhistoire pour Breuil en 1929. Lorsque Breuil est élu, donc, la voix de Teilhard est déjà installée au Collège de France depuis plusieurs années, même si, personnellement, ce dernier est réduit au silence. Selon ses propres termes, les termes de Teilhard, en effet, Édouard Leroy, je cite, lui a fourni une merveilleuse tribune en relayant dans ses cours la substance, je cite toujours, des exercices spirituels que les deux hommes pratiquaient sous forme de dialogue philosophique hebdomadaire tous les mercredis depuis 1921, en tout cas jusqu'en 1926 avec une interruption en 23-24, premier séjour de Teilhard en Chine, et puis 1926, il part cette fois-ci beaucoup plus longuement en Chine. C'est là notamment, donc, dans ces exercices, qu'ont été systématiquement élaborées les notions teilhardiennes d'hominisation, de phénomène humain et de noosphère, la quatrième des propriétés expérimentales de l'humanité qui, selon Teilhard, devait faire converger le monde en une sorte de milieu divin universel de nature christologique. Dans ses cours de 1927-28 en particulier, rassemblés sous forme de livres la même année 28, Leroy reprend explicitement un texte manuscrit de Teilhard, l'hominisation, de mai 1925, en annonçant lui-même que les deux textes sont indémêlables et que son intention principale est de faire connaître la pensée du paléontologue en endossant quant à lui l'habit de simple rapporteur. La censure romaine n'a cessé, à vrai dire, d'être éveillée à cet égard et de s'exercer à l'encontre de ces expressions effectives ou des expressions possibles du spiritualisme théilhardien dans l'enceinte du collège. En 1931, comme on sait, les textes majeurs de Leroy, et partant à travers eux la pensée même de Théilhard, ont été mis à l'index. En 1947, Théilhard en personne a reçu du général des Jésuites l'ordre amical, je cite, « de ne pas faire campagne pour la chaire de préhistoire laissée vacante par le départ de Breuil à la retraite ». Et en 1948 à nouveau, lorsqu'il fut question de rétablir une chaire de préhistoire et de la proposer à nouveau à Théilhard, en remplacement de la chaire, enfin remplacement, pas vraiment remplacement, il n'y a jamais remplacement, de la chaire d'antiquité nationale laissée libre par Albert Grenier, Théilhard a eu beau se rendre en personne à Rome, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, la décision s'est fait attendre à tel point que le collège a fini par préférer la proposition d'Émile Benveniste d'ouvrir une chaire de civilisation indo-européenne. Il se peut que cette décision de l'Assemblée ait aussi résulté d'un agacement, voire d'une méfiance, à l'encontre de ce que son ami jésuite René Douins a nommé le, je cite, « mystère de l'obéissance dans la vie du père Théilhard de Chardin », et qui faisait déjà dire à Paul Rivet en 1946, je cite toujours, qu'il ne voterait plus pour lui, pour Théilhard, s'il était candidat à une charge publique, parce qu'il m'est impossible d'admettre qu'un homme de science obéisse à des injonctions qui lui sont données par des sots et par des ignorants. Il n'en reste pas moins que diverses inflexions de l'esprit théilhardien n'ont cessé d'exister dans l'enceinte du collège par le biais d'amis et d'admirateurs. L'évolutionnisme philosophique, chez Leroy, à partir de 1921, la préhistoire tout simplement, et le processus d'hominisation, par Breuil, à partir de 1929, l'expérience mystique chez Jean Barouzy, qui fréquentait également Théilhard, à partir de 1933, ou encore la définition non mécaniste des critères de la vie, chez quelqu'un comme Étienne E. Michen, titulaire de la chaire d'aérolocomotion mécanique et biologique à partir de 1939 et fervent soutien de Théilhard en 1948, au même titre que l'administrateur général Farrell. Breuil, de son côté, n'a pas eu à subir ce type de rejet ou de suspicion. À la fin des années 20, le milieu savant n'était plus polarisé contre l'intrusion cléricale en préhistoire, comme il pouvait l'être autour de 1905. Parallèlement, l'Église, si elle avait durci sa position contre la notion d'hominisation, ne se mobilisait pas aussi nettement contre la haute antiquité des phénomènes culturels en archéologie préhistorique. Ni l'ouverture d'une chaire de préhistoire, ni son attribution à un prêtre n'ont donc suscité, il me semble en tout cas, de violents débats d'un côté ou de l'autre. Défendu par le roi pour remplacer une chaire de numismatique, remplacée et pas remplacée, une chaire de numismatique rendue libre par le décès de Théodore Reynac, le principe de la chaire de préhistoire a été adopté par 22 voix contre 10 à une chaire d'histoire moderne, qui était prévue pour Lucien Febvre, et 7 à une chaire d'orientalisme. C'est l'occasion pour le roi de mesurer la suprématie incontestée de Breuil, qui, par sa renommée médiatique internationale, écarte toute possibilité sérieuse de compétition, alors qu'une dizaine d'années auparavant, on pouvait encore parler d'offrir une chaire analogue au sein du collège à un préhistorien matérialiste comme Adrien de Mortillet, le fils de Gabriel de Mortillet, et vieil ennemi juré même de Breuil. Parmi les arguments en faveur de l'abbé figurait, outre son aura personnelle, le lien avec l'Institut de paléontologie humaine, dans l'enceinte duquel Breuil a du reste toujours professé un de ses deux cours du Collège de France. Il figurait également la valeur expérimentale et patrimoniale de, je cite le roi, la masse énorme de matériaux, dessins et objets accumulés par le chercheur au cours de ses voyages. En lien avec l'IPH, donc, le Collège de France se positionnait ainsi comme un centre de ressources intellectuelles et matérielles majeures pour la préhistoire au niveau mondial. Mais le roi prenait aussi soin de mettre en avant la puissance de libre et judicieuse critique de Breuil dans... alors, je me remets un peu en arrière parce que ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, donc peu importe. La puissance de libre et judicieuse critique de Breuil dans le domaine des idées, autrement dit son indépendance de savant par rapport aux dogmes religieux. De fait, Si, si, c'est parce que je ne suis pas allé assez vite, c'est ça, j'aurais voulu vous montrer ça, et puis voilà, vous voyez, je saute quelque chose. Voilà, cette puissance de libre et judicieuse critique dont il a fait preuve dans le domaine des idées. De fait, si le pape de la préhistoire a pu faire jouer médiatiquement son statut d'homme d'église pour rehausser le prestige symbolique de la discipline de la préhistoire, il n'a apporté, du moins dans son discours explicite, aucun dieu avec lui. Ses cours se concentrent sur des hypothèses chronologiques, ethnographiques, techniques, concernant les sociétés du paléolithique à travers le monde, ou sur des analyses stratigraphiques. La collaboration avec les sciences physiques et sociales est systématiquement mise en avant, et une conception clairement positiviste de la vérité à fleur, tant dans la volonté de faire parler l'art en tant que document sur les sociétés correspondantes, que dans la certitude que, je cite Breuil, « l'on arrivera quelques jours prochains à des formules définitives », ou même que cet accomplissement a déjà eu lieu en ce qui concerne les grottes ornées. « Ici, écrit-il, la lumière est entièrement faite, il ne reste à préciser que de menus détails. » Ça tombe bien parce que la lumière avait été faite par lui, et donc effectivement il y avait de bonnes raisons de penser que c'était un travail accompli. À aucun moment, cette mise en avant d'une scientificité ancrée dans les faits ne sert, comme chez Teilhard, une stratégie apologétique, fût-elle hétérodoxe. Dans ce cadre non seulement scientifique, mais scientiste donc, tout au plus peut-on déceler parfois que sa vision des finalités magiques de l'art semble le conduire à décrire les collèges de sorciers à l'œuvre dans les grottes en des termes réminiscents, plus ou moins consciemment, de son expérience de séminariste, comme si ces collèges des origines avaient pour modèle l'Église romaine d'aujourd'hui ou d'hier. Deux éléments cependant, et je conclurai par là, conduisent à complexifier ce constat. Le premier émane de l'étrange entrée en matière de sa leçon inaugurale de 1929. En contradiction frontale avec d'autres affirmations du même texte, Breuil y met en avant toute une sémantique de l'effondrement ou du vacillement de la mémoire dans, je cite, « l'inextricable chevelu », c'est un terme qu'il adore, « chevelu », « l'inextricable chevelu des générations anonymes ». Cette reconnaissance de l'empire de l'oubli au milieu des débris anonymes le conduit parallèlement à la fin de son allocution à citer la préhistoire et à la situer en amont des représentations, là où tout récit est impossible, où le rideau est encore baissé. Le premier enseignement de la préhistoire, en somme, c'est celui de l'immémorialité, même si Breuil ne prononce pas le mot, c'est-à-dire d'une épaisseur de temps, comme je le disais au début, dans l'expérience de laquelle s'épuisent les voies du récit. De cette syncope, on est tenté de déduire un rapprochement entre l'appréhension de la préhistoire et une forme de théologie négative, la désignation d'une scène dont on ne peut dire que ce qu'elle n'est pas, à l'inverse du récit mémoriel de l'histoire. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce thème du temps abyssal n'a jamais été développé par Breuil sur un mode métaphysique. En tant que tel, il n'apparaît d'ailleurs que très fugitivement dans son discours. Tout se passe plutôt comme si le véritable enjeu de sa démarche ne portait pas sur la tension entre science et religion, mais entre théorie, qu'elle soit scientifique ou religieuse, comme chez son ami Teilhard, entre théorie donc et pratique. Et c'est dans la pratique qu'il cherche à dépasser les contradictions théoriques, qu'elles s'exercent à l'intérieur de la science préhistorienne ou entre les données de cette science et le dogme chrétien. C'est dans la pratique toujours qu'il cherche à accomplir à la fois son enseignement et sa recherche. Du point de vue de l'enseignement, il insiste dès le premier cours de 1929-1930 sur le fait que les cours du vendredi sont donnés à son laboratoire de l'Institut de paléontologie humaine et suivis d'examens directs d'objets et de leur manipulation par les élèves. Du point de vue de la recherche, dans ses incessants voyages, il a toujours observé avec la main, en pratiquant directement la taille lithique et surtout en relevant et en dessinant d'innombrables images rupestres. Cette pratique a atteint son point culminant dans la grotte des Trois Frères, où il a passé un mois par an, en 1921, puis entre 1930 et 1938, moins pour débrouiller les effroyables chevelus du sanctuaire, que pour littéralement adhérer à la paroi, par sa technique de relever in situ des traits enchevêtrés, le corps collé à la grotte dans une quasi-obscurité. Cette passion de l'action pratique atteint son apogée durant ses années au Collège de France, pour des raisons de dextérité acquise, de sollicitations démultipliées par sa renommée, mais aussi sans doute de besoin d'échapper à la menace d'intellectualisation du travail en cabinet que faisait planer son statut de professeur. Un statut auquel il a d'ailleurs assez volontiers renoncé pendant les années de guerre, au profit d'investigations de terrain au Portugal, au Maroc et surtout en Afrique du Sud. On pourrait déduire de ce rapport passionné au terrain, c'est-à-dire à l'immanence et à l'immersion active dans la matière, une contradiction frontale avec la vocation religieuse de Breuil. C'est ce matérialisme profond que la préhistoire lui aurait permis d'exprimer librement dans la sphère de la science archéologique, en suivant et en accentuant, au fond, le précepte de Gabriel de Mortillet en 1881, « Lire ne suffit pas, il faut voir les objets et les choses. Il faut les faire », aurait pu continuer de dire Breuil. Mais on peut tout aussi bien déceler dans ces pratiques d'appropriation physique des lieux et des objets de la préhistoire une façon de transformer une conscience du temps abyssal, exprimée dans le passage inaugural de sa leçon elle-même inaugurale, une transformation de cette conscience du temps abyssal, donc, en expérience de présence, déconstruisant radicalement les cadres normés de la temporalité. Chez Breuil, cette sorte de passage à l'envers du temps, cette expérience qui est au fond familière à tout préhistorien, prend discrètement la forme d'une attraction pour le mystère. C'est ce que semble indiquer la priorité qu'il a accordée de plus en plus aux questions artistiques, domaine auquel il a consacré la majeure partie de ses cours au collège, et où concrètement le désordre, l'inintelligibilité structurelle, la disjonction des significations nourrissent primordialement notre perception moderne, bien plus que pour les questions d'industrie ou de stratigraphie. Plus intimement, un autre indice de cette attraction pour l'indistinction du sens, sinon pour le mystère, en préhistoire, pourrait résider dans sa passion pour l'inquiétante étrangeté de la grotte ornée, espace par excellence du suspens du temps, où il s'enorgueillissait d'avoir vécu l'équivalent de plus de 700 journées complètes au cours de son existence. Dieu dans la grotte, en somme, non pas pour ce qu'elle raconte, mais pour ce qu'elle fait vivre, et qui se perpétue d'ailleurs dans le rapport quasi-sacré entretenu par nos sociétés contemporaines depuis la fin du XIXe siècle, comme l'a étudié Daniel Fabre, avec les grottes en général et les grottes ornées paléolithiques en particulier. On aura compris qu'entre les deux interprétations d'un dualisme ou d'une continuité chez Breuil entre sensibilité religieuse et matérialisme pratique, je penche personnellement pour la seconde. Ce qui devrait d'ailleurs me conduire à modifier, voire à inverser mon hypothèse de départ d'une absence de Dieu véhiculée par le prêtre Breuil au Collège de France. Cela dit, les documents ne sont pas de mon côté. Raisonnablement, au regard de ce qui nous reste aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose que de laisser agnostiquement, finalement, ouvert le choix entre ces deux hypothèses. Et je vous remercie.